Ceci est la deuxième partie de ma conversation avec Jean-Pierre Gou. Évidemment, si vous avez raté la première, je vous invite à l'écouter d'abord. Bonne écoute.
Alors, il y a plein d'histoires incroyables autour de l'écriture du livre et de tout ça qui se bouscule dans ta vie. On va pas rentrer dans tous les sujets, mais le Petit Prince est le deuxième livre le plus imprimé ou le plus traduit au monde, c'est ça?
Ouais, il y a 600 traductions. Ils disent que la Bible, il y a 700 et quelques traductions. Mais au rythme des traductions du Petit Prince, je pense que le Petit Prince, d'ici 2-3 ans, il aura dépassé la Bible. Donc, c'est le livre le plus traduit. Et en livre de fiction, il y a plusieurs centaines de millions d'exemplaires qui se baladent dans le monde. Donc, c'est le livre de fiction le plus imprimé dans le monde. Donc, et après la Bible, c'est le livre le plus imprimé dans le monde.
C'est marrant, là, cette idée de personnage, en fait... qui représente l'humanité, ça me rappelle la discussion que j'ai eu avec Nate Higgins sur le super-organisme et lui-même qui il a piqué ça à un géologue James Hutton, je ne sais pas si tu connais, qui est un géologue fondateur de la discipline qui avait écrit un livre qui s'appelle Theory of the Earth et qui dit « Je considère la Terre comme un super-organisme et sa physiologie devrait être étudiée ». Donc, tu vois, déjà, fin 18e siècle, il y a des intuitions comme ça qui naissaient. Donc ça vient de loin, effectivement. Alors je voudrais qu'on parle de comment changer le monde et des idées que tu as trouvées et que t'as parsemées justement dans ton roman, et encore il n'y a que le premier tome. Mais donc il y a cette idée qu'il faut changer la vision du monde d'un maximum de gens pour favoriser une transformation systémique. Et donc c'est parce que à la racine de toutes nos actions, il y a cette vision-là. Je voudrais revenir un peu sur le problème avec nos croyances structurantes et notamment donc notre rapport au monde extérieur et notamment au vivant. Et est-ce que c'est le même problème partout? Parce qu'on se dit, il y a quand même pléthore de cultures, il y a pléthore de visions du monde, il y a des religions qui sont quand même pas toutes pareilles et qui sont fondamentales dans la manière aussi dont on a structuré la vision du monde. Et puis, il n'y a pas que le religieux, il y a aussi des croyances qui sont plus récentes. Voilà. Est-ce que il y a quelque chose en commun qui poserait souci partout? Ou est-ce qu'on est arrivé finalement à quelques croyances dominantes qui se sont répandues, qui viennent de, je ne sais pas où, t'as peut-être des idées là-dessus, qui sont fondatrices et qu'il faut absolument updater, enfin mettre à jour, pardon.
Dans les croyances qui sont complexes, il y a celles que j'expliquais, c'est-à-dire le fait qu'au fond, nous-mêmes, on agit comme si le monde était infini, comme si la Terre était, on va dire, inerte et que les choses étaient séparées alors que tout ça, c'est relié. Donc ça, il faut vraiment le faire changer. Et au départ, dans le premier tome de la Révolution bleue, ce dont on discute là, c'est-à-dire changer la worldview, etc., ça, c'est vraiment à la fin du troisième tome. Là, pour l'instant, en fait, le mouvement se structure, quoi. Et pour moi, la chose la plus importante du bouquin sur comment changer le monde, c'est de faire corps, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de nuances de vert dans l'écologisme, et ces nuances se tirent dessus, quoi. Et dans la Révolution bleue, il y a une espèce de pacte d'union pour ne pas se tirer dans les pattes les uns des autres et de faire corps et de considérer que les structures qu'on doit faire changer, ce sont pas que des choses que l'on doit combattre, c'est-à-dire d'utiliser des métaphores guerrières et des mots guerriers, mais des gens à inspirer pour qu'ils nous rejoignent. Et pour moi, il y a vraiment une question de posture, c'est-à-dire que c'est une révolution basée sur la douceur plutôt que basée sur la contrition. Et ça, c'est vraiment un des éléments clés de la Révolution bleue, qu'elle soit très inclusive et qu'on considère que ceux qui n'ont pas encore changé sont les prochains qui seront peut-être encore plus intelligents pour faire changer le monde. Et par cette posture, ils arrivent à attirer à eux un certain nombre d'entreprises, beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs qui se mettent à penser ensemble avec cette vibe qui est une vibe douce et de se dire en fait cette métamorphose ou que le fait qu'on atteigne 8 milliards c'est une évolution naturelle, un peu comme les cellules d'une chenille qui vont toutes devenir papillons à un moment donné, ils sont dans cette attitude là. Ouais, donc sur la Révolution bleue, il y a un élément clé qui est la posture, de considérer que ce mouvement est irrésistible et que petit à petit l'économie, c'est-à-dire le métabolisme de l'humanité, de ce méta-organisme, va s'aligner en fait avec les intérêts de la biosphère. Et donc, il rassemble toute une série de gens, des soigneurs, des bâtisseurs, des résistants, mais qui sont à l'unisson, en harmonie les uns les autres pour attirer les autres à eux. Et il considère aussi dans la Révolution bleue que chaque partie du monde est particulière, avec des cultures particulières, avec des points de départ qui sont particuliers, avec des organisations politiques qui sont particulières. Et donc, c'est pas le one size fits all, c'est justement de se dire que partout dans le monde, la Révolution bleue doit s'adapter aux conditions particulières. La différence, c'est qu'il partage ses connaissances. Donc, il y a un site internet de la Révolution bleue, puis il y aura des IA dans les tomes suivants, où chacun met ses petites recettes, et peut-être qu'il y a des recettes aujourd'hui qui sont testées au Pérou sur faire des tomates qui résistent au changement climatique, qui pourraient nous être utiles. Il y a cette idée de partage de connaissances pour accélérer la transition, et de se dire que il y a déjà beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, mais des choses qui n'existent pas encore. Donc il y a aussi des grands programmes de recherche qui sont menés. Et voilà. Donc ça, c'est, on va dire, l'organisation du mouvement. Après, sur les structures auxquelles le mouvement s'oppose, les plus grosses sur lesquelles il s'oppose, c'est la Chine, parce que la Chine, dans la Révolution bleue, voit ce mouvement au départ comme quelque chose d'insignifiant. Puis quand il commence à structurer et à devenir grand, en fait, la Chine réalise que ce mouvement qui est transnational pourrait contredire son propre mouvement d'hégémonie mondiale. Et donc la Chine essaye de dérouter en fait la Révolution bleue. Et le mouvement, on va dire, d'hégémonie mondiale de la Chine passe par plein de choses, mais l'écologie est un des moyens, c'est-à-dire de faire une transition écologique qui soit technique, et que la Chine soit le pourvoyeur en fait de toutes les briques de base dont on a besoin, que ça soit pour les batteries, les éoliennes, etc. Et le fait que justement la Révolution bleue, alors il y a de la technologie dans la Révolution bleue, mais pas que. Il y a une espèce d'idéologie qui voit la Terre comme vivante, alors que les Chinois voient la Terre vraiment comme un système mécanique, ce qui est pas du tout la même métaphore. La Chine se retrouve contrebalancée, essaye de faire dérailler ça. Et il s'oppose aussi à un certain nombre de structures, on va dire, j'aime pas dire le mot capitalisme, en fait, d'entreprises qui aujourd'hui ont une fonction et qui la rendent d'une certaine manière et qui n'ont pas envie de changer, ou plutôt qui ont peur de changer. Parce que moi, j'essaye de sortir de cette pensée manichéenne et de se dire, c'est normal quand tu as fait les choses d'une certaine manière depuis 100 ans, que quand on te dit que tu dois tout changer tes processus de production, ça te fasse peur et que tu résistes pour pas le faire. Parce que, je veux dire, quand tu es une entreprise et que tu emploies des centaines de milliers de personnes, tu peux pas réaliser ça, quoi. Donc,
on va revenir un petit peu là sur les freins, parce que ça m'intéresse de voir toi, ta perception, même au-delà du roman. Je voudrais rester sur l'idée, avec une question qui me taraude, qui est comment mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où on quitte le domaine de la raison, de la science, parce que tu as dit, il y a cette idée de rêve, de croyance fondamentale, et qu'on revient donc à ce monde de croyance, on voit la difficulté qu'on a à s'entendre, puisque chacun, en fait, croit finalement ce qu'il veut. Et c'est un peu la limite, même moi, que je trouve à la spiritualité, c'est que mon expérience de la spiritualité ne va pas être la même que la tienne, et qu'elle vaut pas moins, mais du coup, on s'entend sur quoi, en fait? Et c'est la limite aussi à l'éco-spiritualité, c'est au-delà de même... Au-delà même de certaines de ses origines, donc qui peuvent être problématiques selon moi, c'est que personne n'a la même sensibilité. Donc, ou alors il faudrait créer ce qu'on appelle les nouveaux dogmes, avec des codes, avec des lois, en disant ok, c'est à ça qu'il faut croire, c'est comme ça que ça fonctionne, comme le font les religions. Mais on voit aussi le problème qu'on a avec les religions, qui ne sont pas d'accord entre elles, et avec tout ce que ça crée comme conflictualité.
Ouais.
Alors... comment on fait en fait, voilà, pour d'abord. Comment tu as imaginé ça pour qu'on ait un rapport au monde, une worldview partagée, première chose. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que tu es convaincu que si on avait une croyance commune, alors ça débloquerait tout?
Ok. Ok. Il y a beaucoup de choses dans ta question. Alors, la première chose, c'est que moi, je suis parti au départ pour mettre tout le monde d'accord en me disant. Aujourd'hui, on essaye de mettre les gens d'accord sur tellement de choses qu'il faudrait un truc avec 50 commandements sur comment être un bon écologiste aujourd'hui. C'est ce qu'on essaye de faire dans chaque proposition de loi qu'il y a à Bruxelles. Et on arrive à la fin à un truc qui est vidé de sens dans les amendements parce qu'on n'y arrive pas, parce que personne ne veut rien changer. Et là, c'est là où j'essaye d'adopter l'approche de Grothendieck en se disant quelles sont les règles ultra simples dans les worldviews qu'on pourrait changer, c'est-à-dire les 2-3 lignes de code qu'on pourrait ajouter chez tout le monde, qui ferait que tout ça forme un tout cohérent. Et ça me rappelle un travail qui a été fait par des physiciens sur les murmurations, qui sont ces groupes d'oiseaux où tu as des millions d'étourneaux qui arrivent à voler ensemble. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a des règles très simples qui sont des règles d'évitement. et des règles où ils ont le même vecteur vitesse en norme, mais pas nécessairement dans la même direction. Et puis après, il y a quoi ? Il y a le champ magnétique terrestre qui les guide, qui leur permet d'avancer. En fait, si tu as des règles d'organisation extrêmement simples, d'évitement, d'aller à la même vitesse et de suivre un champ magnétique, en fait, tu arrives à former un tout avec quelque chose qui n'en est pas. Il n'y a pas de commandement dans une murmuration. Donc moi, c'était vraiment le point de départ de ma réflexion. Et donc, l'équivalent du champ terrestre pour guider en fait le troupeau humain aujourd'hui, c'est d'aboutir vers une forme qui a un outil, enfin un organe avec des fonctions qu'il faudrait élucider sur à quoi sert l'humanité vis-à-vis de la biosphère. Et une fois que ça c'est la direction ou l'appel est clair, en fait les gens se mettent en mouvement et arrivent à se mettre ensemble. Et sur les règles de non-évitement, c'est la croyance commune toute simple de dire j'appartiens à l'humanité, j'appartiens à la biosphère. Et on est dans un être multicellulaire, c'est-à-dire que l'autre, c'est moi avec une autre vie. Toi, Julien, en fait, on n'est pas juste Julien et Jean-Pierre, on est deux cellules. Et donc, toi, tout le chemin de vie que tu as fait, c'est un chemin qui est incroyable parce que moi, j'ai pas eu à le parcourir. Et si on discute ensemble, bah, c'est ce que tu fais là avec moi aujourd'hui, mais nous, on a beaucoup discuté sur toi aussi, on peut s'enrichir de nos chemins qu'on a parcourus les uns les autres. Et l'humanité devient en fait une source de richesse plutôt qu'une source de division. Et tu peux voir en fait les différences non pas comme une façon de se séparer, mais une façon de se relier pour s'apprendre les uns les autres. Et donc, ces règles extrêmement simples de la croyance d'habiter dans un truc multicellulaire, elle est compatible, en fait, avec toutes les formes de religion. C'est-à-dire que là, je parle pas de la question de Dieu. La question de Dieu, elle est bien au-delà. Tu vois, c'est le créateur de l'univers, peut-être de la Terre, etc. Il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont religieux. Et dans la Révolution Bleue, justement, ils essayent que ça puisse inclure tout le monde. Et moi, je vois là, depuis 2 mois, je fais beaucoup de conférences sur ce domaine-là, j'ai vu des gens de toutes les religions. En fait, ça choque pas les dogmes, cette chose-là, c'est-à-dire le fait, c'est une manière d'habiter humainement la Terre ou d'habiter poétiquement la Terre, d'habiter, on va dire, de manière vivante la Terre. Et cette chose-là est compatible. Donc voilà, moi c'est vraiment à ce niveau-là. Et donc plutôt que de mettre les gens d'accord sur toute une série de points, moi je crois plutôt en des règles minimales qui induisent des formes de comportement. Parce que déjà la croyance qu'on est dans un être multicellulaire qui est à la fois l'humanité et la biosphère. Et là encore, hein, je te dis pas que c'est une réalité, mais en tout cas que cette idée-là, si elle était chez les gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle crée des égards, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je vais m'adresser à toi, je vais m'adresser à toi comme toi, tu t'adressais à moi. C'est un peu la règle d'or qu'avaient développé les Grecs. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que tu leur fasses ou fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Parce que, et aujourd'hui, on se considère pas comme ça. Et la règle d'or, elle est forcée. Alors que si tu te considères comme dans un méta-organisme, elle devient naturelle. Et pareil avec la Terre, c'est-à-dire subitement, si tu es une entreprise et que tu te dis tiens, je vais déverser mes ordures dans la rivière, et ben dans cette rivière là, tu peux, si t'as des égards, tu te rends compte que c'est pas ok de déverser tes polluants dans cette entreprise, dans cette rivière, parce que tu vas attenter à la vie d'un certain nombre de poissons, d'algues, etc. Donc pour moi, c'est ce que je recherchais, c'était les règles minimales sur lesquelles on peut s'entendre comme une murmuration qui fait que tout ça amène à quelque chose de complètement différent. Et récemment, là, j'ai eu la chance de rencontrer Cédric Villani qui a lu le bouquin et qui avait été très intéressé. Et je lui disais, en fait, avec cette règle que l'autre, c'est moi avec une autre vie et avec ces égards-là, si tu mets ça dans un simulateur, tu peux changer complètement les règles de la microéconomie. Et plutôt que de détruire le capitalisme, tu arrives à quelque chose qui a complètement un autre sens. Parce que si l'humanité est un corps, la base, c'est que chacune de ces cellules soit alimentée. Aujourd'hui, par exemple, tu as un dixième de la population mondiale qui a pas à manger, qui a faim. Dans ton corps, les 30 000 milliards de cellules sont alimentées. Donc, cette croyance qu'on a en corps, elle est extrêmement structurante parce que, en fait, tu peux la décliner de 1000 manières. Et tu pars toujours de règles extrêmement simples et t'as pas à faire ce que tu disais de lister une série de dogmes. Tout ça, ça coule de source. Et là-dessus, c'est très Grothendieck, c'est-à-dire si tu changes cette croyance-là, enfin en tout cas moi, c'est le point de vue que je développe dans le roman, ça peut rendre tout facile. Alors évidemment, ça rend tout facile jusqu'à ce que tu te heurtes à des structures existantes et ces gens-là vont résister. Donc toute la question, c'est de les faire changer, quoi.
Qu'est-ce qui te convainc de ça ? Parce que je pourrais te observer que Enfin, je me dis, même si on s'imaginait qu'on était convaincu qu'on fait partie d'un grand tout ou d'un être vivant et que, enfin voilà, même si on intégrait ça, moi j'observe qu'en fait il y a l'égard qu'on a pour des choses vivantes aujourd'hui dont on sait, dont on est certain qu'elles sont vivantes, me paraît pas vraiment énorme dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui fait que même si je sais que dans cette rivière il y a des êtres vivants, bah, je m'en fous de la polluer à partir du moment où moi je ne suis pas touché en tant qu'individu. Il y a beaucoup ça aujourd'hui. Ou même si j'ai le sentiment de faire partie d'une société commune avec d'autres humains que je considère comme étant vivants et que je considère comme étant potentiellement en capacité d'éprouver de la souffrance, bah, ça ne me dérange pas de faire des choses qui vont les faire souffrir, qui vont les mettre en danger. On observe tout un tas de comportements humains qui ne vont pas du tout dans le sens de l'empathie pour le vivant. Donc, en quoi le fait de considérer la Terre comme étant vivant, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as des éléments qui viennent te convaincre de ça?
Oui, alors s'il s'agit d'une croyance, on va dire, qui est, on va dire, purement froide, cette croyance, elle doit aller avec un ressenti, quoi. C'est-à-dire que si c'est juste, je te dis, ok, je fais partie de l'humanité, etc. C'est-à-dire que, avec cette croyance, va le fait que tu te ressens comme partie de l'humanité et que cette capacité d'empathie aujourd'hui qui est effectivement limitée, hein, il y a des études qui te montrent qu'on est infiniment fois plus empathique quand il s'agit de nos enfants que quand il s'agit d'un enfant à l'autre bout du monde ou un adulte à l'autre bout du monde. À la limite, un enfant, tu peux te dire, bon, il y a un peu une forme de transposition. Donc, la question, c'est une question d'élargissement de conscience et on peut montrer dans les cartes d'évolution de la conscience que, donc ça c'est Ken Wilber qui a fait beaucoup d'études là-dessus, que croître en conscience, et là je parle pas de quelque chose de spirituel, c'est inclure de l'autre en soi. Et quand t'es un petit enfant, tu te considères juste toi-même. Puis après t'apprends que il faut laisser les autres s'écouter, que tu peux pas prendre les objets des autres, etc. Donc tu commences à développer des égards. Et ces égards, aujourd'hui, en général, ça s'arrête à ça, si tu veux, à la salle de classe, des règles et tout. Donc, il faudrait aller avec ça, faire croître cette chose-là pour développer des systèmes d'égards avec tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui que tu te rencontres, tu t'adresses à lui comme si c'était ton fils. Et pour ça, il faut avoir vécu une expérience extrêmement profonde. Alors, elle n'est pas dans le premier tome, comme je vous disais, ce sentiment, il naît à la fin du troisième tome, mais il faut arriver à avoir une expérience extrêmement profonde qui fait sentir aux gens qu'on n'est qu'un seul tout. Et cette expérience, elle est probablement en frôlant la mort tous ensemble. Donc ça, je veux pas dévoiler ce qui se passera, mais tu peux ancrer cette croyance profonde que avec une expérience qui soit une épiphanie et une épiphanie qui te change la vie à jamais. C'est-à-dire que cette croyance-là, qui est ce son en conscience, voilà, et il ne peut être facilité, en tout cas dans le roman, que si justement on est à une époque où les limites planétaires deviennent mortelles, quoi. C'est-à-dire que si t'étais à une époque où, là, tu me parles de limites planétaires, mais je les vois absolument pas, je ne les ressens absolument pas. Et en fait, je peux pas avoir ça. C'est-à-dire que c'est concomitant, ce truc-là. Mmh. Dans le roman, le fait que on se rende compte que dans des villes entières, et on commence à le voir là, où on se rend compte qu'on peut plus passer au canal de Panama parce qu'il y a pas assez d'eau, que à Bangalore là, il y a ils sont obligés d'amener de l'eau par camion citerne, d'autres aquifères. Mmh. En fait, on va vivre des moments où il y a un moment où on va souffrir ensemble, et c'est dans cette souffrance ensemble qu'on va prendre cette conscience là qu'on est tous reliés. Et c'est en ça que je disais que les limites planétaires peuvent être l'activateur de ça, c'est-à-dire que cette croyance, si elle est pas prise dans un étau qui t'amène à la rendre sensible et personnelle et vitale, en fait, cette croyance, elle peut pas s'inscrire.
Sur les règles simples, c'est une petite digression, mais tu connais le jeu de la vie, là, l'automate cellulaire de Conway, ouais.
J'ai même pris des cours avec Conway, moi. Donc,
ah bah, sûr.
Voilà. Conway, il est venu enseigner à Northwestern University où moi j'étais chercheur en maths, donc j'ai pris 10 heures de cours avec lui et ça a été une rencontre extraordinaire. Ouais. Donc lui, il a développé en fait des notions d'automate cellulaire où à partir de règles simples, on voit des structures qui émergent. Et moi, ça m'a toujours fasciné, et notamment ce cours avec Conway que moi j'ai pris il y a 30 ans, hein, ça m'a vraiment mis beaucoup sur ces questions des règles simples qui font que les choses émergent. Et moi, je suis beaucoup sur les sciences de la complexité. Tu as deux trucs. Soit tu mets des structures pour structurer les choses, soit tu mets des règles simples qui arrivent à faire émaner des structures. Je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Et dans le bouquin, il y a des deux. Mais le changement des règles simples, moi, c'est quelque chose auquel je crois. Et au même époque où j'avais pris des cours avec Conway, j'avais pris des cours avec Teller, qui était un des inventeurs de la bombe atomique, sur les murmurations d'oiseaux et qui nous avait parlé des règles simples. Et, tu sais, c'est des petits moments dans la vie où tu te dis, tiens, ça va avoir un rôle important dans ce que je vais faire ensuite. Et puis moi, je suis très marqué par Wolfram aussi, Stephen Wolfram, qui utilise beaucoup ça, ces sciences de l'émergence. Et je crois à ça.
Alors, parmi ces règles simples que moi, j'ai essayé d'étudier là dans mon bouquin, tu sais, ouais. Je sais de, il y en a qui me paraissent fondamentales, qui sont à l'origine, je pense, des structures qu'on a aujourd'hui, qui est, par exemple, cette quête de puissance qui paraît animer l'humanité et les structures humaines ou les individus, qui structure le jeu politique, qui fait qu'on a toujours les mêmes types d'individus avec les mêmes personnalités qui sont au haut de la pyramide, qui fait que une civilisation avec peut-être des règles plus respectueuses de la nature, de l'environnement, finit par disparaître parce qu'elle est conquise ou détruite par la civilisation d'à côté qui, elle, n'a pas les mêmes règles et qui est plus violente, etc., et plus en quête de croissance, et qu'on est les héritiers de ça, et que ça vient structurer tous nos modèles actuels, et que finalement, même le capitalisme, qui est beaucoup critiqué, est un symptôme de ça. Un symptôme, c'est une manière d'organiser la société pour maximiser la croissance en utilisant le plus de ressources possible pour la transformer en argent, qui est une réserve de puissance, en fait. Donc, on a tout ça qui est bien en place et qui vient de règles fondamentales. Toi, qu'est-ce que tu dis de ces freins? Et quels seraient peut-être, justement, les points de bascule ou les quelques règles fondamentales qu'il faudrait changer parce qu'elles s'opposent à tout ce qu'on essaie de mettre en place ou qu'il faudrait mettre en place, notamment une forme de décroissance, en tout cas de notre impact sur la planète. Voilà, qu'est-ce que tu as compris de ces règles fondamentales et où sont les nœuds, en fait, s'il y a des...
Alors, effectivement, quand tu regardes l'évolution humaine, ce que tu décris là, c'est-à-dire cette espèce d'amour de la force qui fait que il y a au départ des villages, des états, des cités-états, des états-nations et qui s'imposent les idées les uns aux autres pour se prendre les ressources, etc. Enfin, ça a structuré l'histoire humaine et ça, c'est clair. Justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que si la Terre était infinie, on arriverait, ça serait encore les mêmes règles. Le truc, c'est qu'on est un peu comme les nénuphars qui se doublent tous les jours, on arrive à remplir les temps. Et donc là, quand tu as une économie qui touche les limites de ce système-là, un certain nombre de règles qui étaient des règles naturelles mutent. Tu vois. Et ça, tu peux le montrer justement dans les théories des systèmes, qu'est-ce qui fait qu'un tout, enfin que des parties forment un tout. Quand elles forment un tout, il y a tout un tas de trucs qui mutent. Et aujourd'hui, ces règles-là, et on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'on devrait s'occuper des limites planétaires, on est dans une espèce de monde multipolaire où tu as la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis, l'Europe vaguement, mais un certain nombre de puissances qui montent toujours dans des logiques de pouvoir, de domination, etc. Et s'il n'y avait pas les limites planétaires, tout ça, ça perdurerait. Et c'est peut-être ça qui peut nous rassembler, parce qu'à un moment, ça va faire peur à tout le monde, et qu'à un moment, on va se dire, là, on serait pas en train de faire n'importe quoi, et que on va s'unir là-dessus. Et le pari du bouquin, c'est que on passe de l'amour de la force à la force de l'amour, quoi. Et ça, c'est quelque chose, moi, que je vois, et qui est très lié à Teilhard de Chardin, qui est que t'as vraiment ces deux forces dans l'humanité, l'amour de la force et la force de l'amour, et qu'on utilise selon la plupart des dictateurs, je suis sûr qu'ils sont très amoureux de leurs enfants, mais par contre, quand il s'agit des autres humains, ils changent complètement de paradoxe, mais que si on est lié à quelque chose qui nous unit ou qui nous force à nous unir, en fait, cette force de l'amour, elle peut se libérer, et c'est une force qui est infinie. Et c'était Teilhard de Chardin qui disait que le jour où l'humanité découvrira l'amour, elle redécouvrira le feu pour la deuxième fois. Et donc l'énergie d'union que j'arrive enfin que je décris dans le livre, c'est vraiment cette énergie de l'amour qui sort du cœur de cette petite princesse et qui nous unit. Donc et je crois que c'est parce qu'il y a des conditions aux limites. Et le bouquin, alors là je te le résume là-dessus, ça paraît difficile, mais c'est de montrer que derrière ces structures, il y a des individus. T'as un président chinois, et que ces gens-là, ils se posent quand même des questions sur l'avenir de la planète et qui se disent qu'à un moment où il y a des urgences, ils sont un peu obligés d'être dans la réelle politique, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont pas prêts à le faire. Ils voudraient changer. Beaucoup de gens, et moi je le vois aujourd'hui dans les entreprises que j'accompagne, dans les conférences ou dans les travaux de conseil que je fais, ils sont pris dans un étau, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont en dissonance cognitive et ils sont prêts à aller vers autre chose. Et la situation de l'humanité aujourd'hui, c'est un dilemme du prisonnier géant à 8 milliards, où chacun, on a le choix, en gros, entre deux choix, le chacun pour soi et le tous ensemble. Et le chacun pour soi, il est facile, parce qu'en fait, je maîtrise une partie du game. Le tous ensemble, il présuppose que tous les autres font le même choix. Et c'est pour ça qu'on le fait pas, parce qu'on se dit, ouais, bon, moi, j'aime bien le tous ensemble, mais je vais quand même bosser dans telle entreprise, parce que c'est plus sûr, plutôt que de faire ce choix de pas de côté, parce que les autres vont pas le faire. Et au fond de nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le faire. Et le pari du bouquin, c'est qu'à un moment, les gens tous ensemble chiffrent ce truc-là et qu'ils se retrouvent de l'autre côté en se disant « Putain, mais on était cons de ne pas l'avoir fait avant ce pas ensemble. » quoi. Et ouais. C'est le pari du tous ensemble par rapport à ça, parce qu'on a ça en chacun de nous. Il y a cette volonté de puissance et de domination, mais il y a cette capacité à aimer aussi et qui est une force un peu de la même nature et qu'on peut retourner. Et ce retournement… il n'est possible que dans des conditions historiques qui sont uniques, qui sont celles dans lesquelles on est, où à un moment, en fait, c'est soit le suicide de l'humanité, soit d'arriver à une forme qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus intégrée. Et au fond de nous, moi, je pense que le monde qui nous attend derrière, il est beaucoup plus beau et qu'il y a une partie de notre cerveau qui nous guide vers ça, mais c'est un manque de confiance dans les autres. Et dans le roman, c'est dans les tomes d'après, je fais naître quelque chose qui… Enfin, ça. Et pour moi, cette simulation, elle est importante parce que… tant que j'arrive pas à l'écrire dans le roman, que ça soit crédible, c'est-à-dire que les gens se disent petit à petit, on va vers ça, et de toute façon, on voit tellement le cataclysme vers lequel on pourrait aller, et on voit aussi qu'on pourrait choisir cette voie, et à un moment, il y a un déclencheur qui fait que ton système, il s'organise différemment, et ça, moi, c'est quelque chose qui me vient de la théorie des percolations, si tu veux. Alors, moi, j'ai toujours des analogies un peu physiques ou mathématiques, où tu peux te rendre compte que parfois, un tout petit changement peut changer le spin globalement, c'est-à-dire un changement dans des conditions microscopiques peut changer une propriété macroscopique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, ces changements d'état où un système est prêt à un moment à basculer. Il suffit d'un truc pour qu'il change de forme, il change d'état.
Alors, quels sont les leviers ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait de manière consciente ? Est-ce qu'on a une forme de libre arbitre par rapport à ça ? Est-ce que, ou alors, en fait, ça se fait à un moment donné parce qu'il y a des mécaniques finalement qui nous échappent et ça bascule quand ça doit basculer, et on voit souvent que les sociétés changent face au mur et pas avant, c'est-à-dire que même quand t'as les signaux, quand t'es pas confronté au truc, ça bouge lentement, et puis tout d'un coup ça peut bouger, et donc il faut attendre que ça se passe. Est-ce que tu voilà, quels sont les moi j'ai du mal vraiment à voir où est-ce qu'il faudrait appuyer, quels sont les éléments qu'il faut changer, et puis surtout comment, parce que t'as tellement de blocages que ça en devient un peu désespérant, parce que tu vois, même quand t'es sur quelqu'un qui va te dire, faudrait faire de la décroissance ou changer l'indicateur PIB. On voit toutes les difficultés qu'il y a à le faire dans le système actuel, parce que ça impliquerait de fermer les frontières, ça impliquerait de faire tout un tas de choses. Donc ça se fait pas. Et de fait, on observe que ça continue malgré les alertes, qu'il y a une forme d'ailleurs d'habituation. C'est-à-dire que même les événements choquants ne nous choquent plus parce qu'on commence à avoir entendu la musique. Donc, alors sans spoiler le reste du bouquin, tu vois, mais voilà, sur quoi tu vois les éléments fondamentaux qui pourraient faire qu'à un moment donné, il y a non seulement une prise de conscience, mais en plus à la bonne échelle, et surtout que ça puisse être créé quelque chose qui permette d'avoir une réflexion profonde et surtout des actions profondes sur la modification des structures.
Ouais. Alors, il y a plusieurs trucs. La première chose, c'est sur est-ce que ça se prépare ou est-ce qu'il faut laisser faire? Aujourd'hui, vu l'état de l'humanité, s'il n'y a pas une partie de l'humanité qui s'empare de ces choses-là et qui décide, si tu veux, de d'activement changer les choses, de proposer des nouveaux paradigmes et de réfléchir à la manière dont ces paradigmes peuvent devenir communs, en fait, le truc se fera pas. C'est-à-dire que l'hypothèse dans laquelle on va vers un effondrement et qui est une forme de renoncement de l'humanité en se disant « Ouh là là, ce défi, il est trop difficile, moi, je vais pas le faire au titre de ces choses-là », je veux dire, cette faculté de la pierre de retomber au bas de la montagne, il est là. Et tu vois que dans l'évolution humaine, il y a toujours eu des évolutions parce que des courageux ont eu le courage de proposer des idées complètement folles, de fédérer gens autour de nous pour démarrer quelque chose qui au début paraît absurde, mais qui finalement après paraît comme une évidence, quoi. Tu prends le Conseil national de la résistance, leur propose, et puis il y a des conditions historiques qui fait qu'à des moments il y a des choses que tu peux faire passer et avant tu pouvais pas les faire passer. Les propositions du Conseil national de la résistance n'auraient pas pu passer avant la Deuxième Guerre mondiale, quoi, parce que c'est quelque chose où les gens étaient pas prêts. Et donc, et il y a eu un choc qui a permis de faire ça. Et donc dans la Révolution bleue, c'est pas que des belles idées et tu dis, ah bah tiens, elle est super ton idée, je vais l'adopter. Il y a des chocs qui font que ces belles idées, on arrive à un moment où les conditions historiques sont réunies pour se dire, ah oui, bah là il faut qu'on passe. Et moi je crois dans ces choses-là, c'est-à-dire que si demain t'enlevais toutes les résistances et tu mettais une planète qui était 4 fois plus grande, en fait les questions se poseraient dans 50 ans ou dans 100 ans quand on serait 16 milliards ou 20 milliards, parce que voilà. Donc il y a un mélange dans ce en quoi je crois, où non, il faut pas, je crois pas au laisser agir, parce que là les choses vont perdurer et on peut aller vers les pires choses, mais je crois que dans ces moments-là, c'est là où il y a des idées géniales qui sortent, des concepts qui se mûrissent, et souvent les concepts ils maturent, tu vois, il y a des concepts qui était formulé au début des années 70, 80, en économie, en agriculture, dont personne n'a besoin. Puis à un moment, quand t'as plus à manger, tu dis, mais finalement, pourquoi on fait pas ça? Et je crois que il y a cette chose-là. C'est-à-dire d'arriver au bout du chemin pour se dire, bon, bah, maintenant, on va peut-être faire le truc qui paraît d'être le bon sens pour tout le monde, quoi. Et là, à ce moment-là, les gens sont prêts à changer complètement. Mais il faut qu'on soit dans ces conditions historiques-là, c'est-à-dire près de la mort, en fait, quoi. Mais moi, je suis pas comme les collapsologues qui se disent, bon, mourons d'abord et on verra après, quoi. Moi, je suis dans ce temps où je pense que l'approche du point de bascule ou du point d'effondrement, c'est aussi un mouvement d'ascension de toutes ces idées, et qu'au moment où on pourrait mourir, en fait, on peut éviter ça, mais il faut vraiment avoir touché le précipice de près pour voir le reste comme une évidence et de se dire, allez, dans ce dilemme de prisonnier géant, on fait tous un pas ensemble vers un monde plus beau, et ce monde, c'est le monde de la coopération, quoi.
Ouais, donc ça veut dire que c'est pas, il y a parfois on a l'impression de travailler un peu dans le vide ou d'être face à des murs infranchissables, mais en gros tu dis ça vaut le coup de toute façon d'avancer et à préparer les choses, parce que vient un moment où c'est mûr et où on est content d'avoir travaillé à ces idées, sur ces idées en amont, sur ces idées, ces technologies, ces concepts, etc.
Ouais, y a vraiment ça. Et aujourd'hui, moi je vois autour de moi, il y a beaucoup de choses qui restent à inventer, tu vois. Il faudrait inventer une nouvelle matière qui remplace le plastique, il faudrait inventer des nouvelles manières de se transporter, des nouvelles manières de faire de la politique. Donc il y a encore plein de choses qui sont à imaginer, mais par contre il y a plein de choses qui sont prêtes, mais qui sont pas prêtes à changer, parce que il y a ce truc où comme on change pas tous ensemble, on n'est pas prêt. Et ça, il y a que je dirais l'approche de ce précipice, et à un moment, tu vois, une espèce de d'avoir frôlé la mort collectivement, qui permettent d'avoir une autre forme d'organisation. Mais c'est très complexe, et le roman permet d'analyser ça, parce que si je te donnais juste une idée en disant, bah tiens, elle est belle, mais comment tu la confrontes à la réalité? Dans le roman, le monde s'invite, toute sa complexité s'invite, et moi, mon travail d'écrivain, c'est moi-même de me dire, finalement, est-ce que j'y crois, moi, au fait que ce truc-là, il passe? Et je réécris jusqu'à ce que ça me semble OK. Et parfois, je rajoute des éléments de complexité que j'avais pas pris, parce que je me dis, non, mais là, ça serait trop simple, en fait, ce truc-là, et j'y crois pas. Et le roman est vraiment une voie d'exploration d'une piste et de confronter une idée à une réalité, quoi. Et c'est mieux qu'un simulateur informatique.
Un des éléments aussi qui sont fondamentaux que tu présentes dans ton bouquin pour, justement, accélérer la bascule, voilà, je vais en citer deux, c'est la musique. Et deux, ce qu'on va appeler ceux qui ont les réseaux sociaux et l'influence. Voilà, est-ce que tu peux en dire deux mots, en fait, pourquoi ce sont des choses centrales pour toi?
Alors, les réseaux sociaux et l'influence, dans le livre, alors déjà, ils sont utilisés contre la Révolution bleue au départ pour essayer de la détruire. Et après, la Révolution bleue s'auto-organise elle-même pour que utiliser d'une autre manière ces réseaux pour croître, quoi. Mais ils essayent de sortir de cette dynamique, je dirais, délétère, où les réseaux sociaux sont à la fois quelque chose de très égotique et puis quelque chose utilisé par des forces pour diviser les gens. Donc ils essayent d'aller au-delà de ça. Et les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette façon de se connecter les uns les autres par une sorte de nouveau système nerveux, peut être extrêmement positif. Et le net, c'est comme un couteau de cuisine. Tu peux l'utiliser pour préparer le meilleur plat ou pour tuer ta femme, quoi. Donc, il y a ça qui est utile. Et la deuxième chose sur la musique, ça revient à la question de l'harmonie. C'est-à-dire, dans ce grand concert qu'est la Révolution Bleue, des gens qui ont décidé de se reconnaître les uns les autres pour bâtir petit à petit cette créature humaine et ce système économique qui est au service de la biosphère au lieu de l'inverse. Il faut qu'ils soient à l'unisson, et j'utilise la métaphore de l'orchestre, parce que chacun, on est comme un violoniste, un harpiste, un joueur de triangle, on va faire notre petite partition, et tout ça doit faire quelque chose qui est harmonieux, et c'est un orchestre qui doit croître. Donc eux, ils sont sans cesse dans une relation harmonique, en se disant, il va y avoir des nouvelles tonalités qui vont être intégrées, puisqu'on va croître, mais on va essayer de les intégrer pour que tout soit ça harmonieux, de manière à ce que les autres se disent, mais ce monde-là, il est harmonieux, alors que le monde à l'extérieur, il est cacophonique, et les gens ne les rejoignent justement pour trouver cette forme d'harmonie. Et donc, la musique est très importante dans le roman, parce que c'est la métaphore qui est utilisée pour le faire croître et maintenir ces cellules à l'unisson, puisqu'à la fin, le but, c'est de faire un méta-organisme qui ne forme que un, et donc, la musique est très importante.
Est-ce que tu peux me parler de Homo Biospheris?
Alors, Homo biospheris, c'est justement la finalité de cette humanité, c'est-à-dire aujourd'hui on est 8 milliards de petits sapiens séparés, et on pourrait tendre vers une grande créature qui prenne conscience d'elle-même, c'est-à-dire une créature constituée de 8 milliards d'humains qui vivent de manière assagie avec la biosphère et qui soit en osmose avec elle, qui est symbolisée par le petit prince. Et c'est ça Homo biospheris, c'est cette humanité vers laquelle on peut tendre. Et c'est intéressant de se représenter comme un organisme vivant qui est un organe de la biosphère, parce que cet organe, du coup, on voit l'économie comme un métabolisme d'une créature, et tu vois toutes les scories de ce métabolisme. Déjà, il consomme beaucoup trop d'énergie, il produit énormément de déchets, il produit des objets qui sont pas du tout biodégradables, et si tu le considères comme un organisme qui doit durer pendant des centaines ou des milliers d'années, tu te rends compte que c'est une évidence de le reconfigurer. Donc le fait de se dire qu'on appartient à un tout qui, aujourd'hui, on le prend tel qu'il est, c'est-à-dire en fait, on a construit l'humanité sans le savoir, donc on a fait un truc qui déborde de tous les côtés, on déborde des limites planétaires, et soudain, quand on comprend conscience de nous-mêmes et qu'on se dit que ce métabolisme, il faut le réorganiser, en fait, la transition écologique devient juste de la création de beauté, du réalignement, et aussi une impulsion à la créativité, parce qu'aujourd'hui, les technologies qui font que tous les objets qu'on possède soient biodégradables, en fait, on les a pas. Et la vie a créé des objets extrêmement technologiques, l'œil humain, la main humaine, etc., qui sont elles-mêmes biodégradables. Donc, c'est une invitation à complètement réinventer l'industrie et en passant par le biomimétisme, la bioinspiration, et d'aller beaucoup plus loin sur les compréhensions nano, macro, donc de tout réinventer en s'inspirant de la nature. Donc, Homo biospheris, c'est à la fois le point d'attraction de l'humanité, et aussi le concept qui fait que si l'économie s'intègre à ça comme son métabolisme, elle se réaligne avec les grandes fonctions de l'humanité, des buts très nobles et le fonctionnement de la biosphère.
T'as eu une réflexion sur justement ce qu'il faudrait modifier dans l'économie? Là, c'est un peu une digression, mais et notamment le rôle de l'argent dans les échanges humains, dans le statut social, dans tout ce que ça structure aujourd'hui, la dette, etc., qui est un des plus gros verrous, selon moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré dans ta réflexion?
Pas à ce stade, parce que non, j'ai pas une réflexion vraiment sur le rôle de la monnaie. Moi, j'ai plus une réflexion sur l'économie et l'analogie anatomique de l'économie, mais j'ai pas encore réfléchi à cette question de l'argent. Mais c'est une grande question, quoi. Est-ce que ce paramètre, on va dire cette valeur unique, est-ce que ça permet d'aligner tout le monde? L'équivalent de l'argent en anatomie, ça serait peut-être les sucres, c'est-à-dire l'ATP, ces molécules qui permettent, tu vois, à tout tourner, et qui est assez universel, mais qui est quelque chose qu'on peut pas tellement cumuler. Enfin, y a un gros sujet là-dessus. Mais bon, j'ai pas posé tous les sujets, mais ce sujet-là. En tout cas, je n'ai pas.
T'as pas modélisé abordé l'entièreté du monde, quoi.
Non, mais je l'ai pas abordé sous l'angle de réinventer l'argent parce que. Je pense qu'il manque un concept sur qui sommes-nous. Tu vois. L'intérêt du concept d'homo bioceris, c'est que s'il était partagé, ça change la réponse à la question qui suis-je. Tu vois. Genre, aujourd'hui, je suis moi, et si je suis moi appartenant à un collectif qui a un sens vis-à-vis de la biosphère, et j'appartiens aussi à la biosphère, et tout ça, c'est dans l'univers. En fait, pour moi, ça me semble, dans les règles minimales, tu vois, dans ces théories d'émergence de systèmes, de systèmes complexes, partir par l'argent, pour moi, c'est pas la bonne voie pour arriver à quelque chose de complètement nouveau. Et que le rôle de l'argent cité dans une écologie au service de l'homo biosphéris et au service de la biosphère, l'argent va se réaligner. Moi, ça, c'est mon sentiment, mais il faudrait que je l'analyse.
Alors, si on veut se mettre au service de la biosphère, c'est quoi le projet, en fait? C'est quoi le projet de la biosphère?
Alors, dans son sens. Déjà, il y a le projet de l'humanité, c'est-à-dire quelles pourraient être les fonctions de l'humanité. Donc, l'humanité, aujourd'hui, beaucoup de gens te disent, elle sert à rien. Et aujourd'hui, on a créé une économie qui est au service que d'elle-même, où le pinacle de cette économie, c'est d'être livré une tablette de chocolat en 15 minutes dans ton salon. Et quand tu regardes ça d'un point de vue cosmique, tu dis, tiens, sur cette petite planète où il y a de la vie, et probablement il n'y a pas de vie avant 4 années-lumière, ils en sont arrivés à ce truc où c'est ça leur grand projet. On devient un peu fou. Et donc, tu vois, je me suis posé la question de quelles pourraient être les fonctions nobles de l'humanité, quoi. La première, tu vois, des fonctions nobles de l'humanité, ça pourrait être de prendre soin de la Terre, quoi. Aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de forêts où il y a des humains, dans des peuples autochtones, les forêts sont en meilleure santé que là où il n'y en a pas. Et on pourrait être un peu comme si on disposait des humains un peu partout sur la Terre, prendre soin. Et tu pourrais changer le rôle des États-nations. Au lieu de se dire, tiens, moi, je peux puiser tout ce que je peux ici, c'est de prendre soin de cette petite partie du territoire, comme si on était des parties de la Terre qui étaient les gardiens de la Terre, quoi. Les gardiens au bon sens, et de préserver tout ça et prendre soin de la vie. Et puis, tu pourrais avoir d'autres fonctions, hein, qui sont des fonctions que l'on a et qui sont des fonctions scientifiques. Par exemple, les fonctions que la Terre a, que l'humanité a pour comprendre l'univers. Comme nous, on est des parties de cette biosphère qui ont évolué, tu pourrais te dire que c'est la biosphère elle-même qui construit le James Webb télescope après avoir fait Hubble et qui a des lunettes de plus en plus qui voient plus loin ou qui voient mieux pour essayer de comprendre ce grand truc qui est l'univers, donc la quête scientifique et de compréhension de l'univers et cette grande question de quel est l'univers, hein, qui est posée par l'astronaute Paul Gardner dans le livre, et puis pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, toutes ces grandes fonctions. En fait, je pense que l'humanité, si on est une partie de la biosphère, à travers nous, c'est la biosphère qui se pose ces questions-là. On peut avoir un rôle aussi de défense, c'est-à-dire que tous les X centaines de millions d'années, on se prend des petits cailloux qui s'appellent des astéroïdes qui vont détruire 99% de la vie. Alors, peut-être pas 99% des espèces, mais ça te fait à la fois un feu immense, puis après des périodes très froides où tu repars à zéro, et nous, on a la faculté de détecter ces petits cailloux, peut-être même de les défléchir. Donc ça fait petite partie des grandes missions de l'humanité. De penser en grand, de se dire, tiens, cette humanité, ce phénomène, quelles pourraient être ses grandes fonctions? Une fois que tu les as explicitées, et ça, il faudrait un débat mondial pour se dire quelles sont les fonctions de l'humanité, bah, tu verrais l'économie se réorienter autour de ça. Et l'humanité, on est tous un peu comme des ludions, c'est-à-dire soit on est pris entre des forces qui remontent et des forces qui redescendent. Et si on met pas un appel vers le haut, vers une construction d'une sorte de cathédrale qui serait l'humanité, on serait tous attirés vers le bas répondre à nos espèces de besoins grégaires, etc. Et il y a que ce sens de l'appel et de l'élévation, et je parle pas de religion ici, c'est de participer à quelque chose de transcendant qui est cette grande construction de l'homo biosphéris. Ça serait de nature, voilà, à réaligner en fait nos objectifs vers quelque chose de plus haut. Et souvent, tu te rends compte que c'est un but commun, une mission commune qui crée l'union, tu vois. Et aujourd'hui, l'humanité n'a pas un but, quoi. C'est comme si on était un corps, mais qui était fracturé en 200 États-nations. C'est ça, hein, la réalité de l'humanité aujourd'hui. Et je pense que dans 100 ans, on en rigolera, quoi, tu vois, quand on sera arrivé à quelque chose qui est un tout et qui a réussi à surmonter cette crise des limites planétaires, on regardera notre époque avec nos déchets, avec nos guerres, avec nos choses, comme quelque chose qui était anachronique. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'espère, et ça, c'est mon côté positif ou écrivain, mais d'essayer de croire à quelque chose de plus beau et de pas me complaire à observer un monde qui s'écroule.
Est-ce que tu as été alors jusqu'à la question du sens de la biosphère ? Parce que se mettre au service de la protection de la planète ou du vivant ou de la création de l'homo biospheris, quelque part derrière, il faut qu'il y ait un but à ça. C'est-à-dire que pourquoi, ouais, en fait ? Tu vois, c'est quoi la biosphère ? Ça s'inscrit dans quoi ? Et c'est pour ça que les religions proposent quelque chose qui va dans ce sens-là, parce que il y a la vie après la mort, parce que pour faire plaisir à une divinité, etc., etc. Donc toi, est-ce que t'as été jusqu'à poser cette question-là?
Oui, je me suis posé cette question et c'est très difficile d'y répondre parce que forcément les intentions qu'on mettrait à la biosphère, elles sont très anthropomorphiques. Alors que tu vois, dans le bouquin, je parle de cette image où imagine une petite fourmi qui serait dans la soute d'un avion. Dans un vol transatlantique entre Paris et New York, si tu demandais à cette fourmi qu'est-ce qu'elle fait, elle dirait juste bah je suis là, et tu lui apprendrais qu'elle est entre Paris et New York dans un avion, elle comprendrait ni le concept d'avion, ni le concept de pilote, ni le concept d'Atlantique, de Paris et de New York. En fait, c'est des concepts qui nous échappent, et probablement les intentions de la biosphère, qui sont infiniment plus grandes, elles sont difficiles. Mais on a cette faculté, nous les humains, à quand même essayer de faire des expériences de pensée pour penser différemment. Donc on n'arrive pas à le faire avec les animaux ou les plantes encore, et je sais que tu as interviewé quelqu'un récemment sur l'intelligence des plantes et des animaux, mais on commence à faire cette réflexion, et notamment poussé par l'IA qui nous intéresse, qui nous implique à réfléchir à ce qui est la notion d'intelligence.
Et toi, tu penses qu'il y a une intention, parce que ça veut dire que...
En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelque chose d'inerte, qui était quelque chose de très simple, et qui est devenu quelque chose de plus complexe, et qui est quelque chose d'extrêmement résistant et résilient, qui permet et la toile de la biosphère, c'est quelque chose d'infiniment ténu, hein. C'est le poids de la biosphère, c'est 1/10 milliardième du poids de la Terre. Donc, la Terre, c'est un gros roc avec une petite fine écharpe de soie qui est le vivant. Et dans cette écharpe de soie, elle a été attaquée par des astéroïdes, des explosions de supernova, et elle a résisté. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement résilient, comme s'il y avait une intention de rester là. Et c'est un phénomène qui dure depuis 3,8 milliards d'années, hein, la vie. Donc, la vie aurait pu s'éteindre. Il y a quelque chose d'extrêmement tenace, tu vois, dans la vie. Donc, je pense qu'une des intentions de la vie, c'est de se perpétuer, quoi, et de se rendre de plus en plus complexe. Et derrière, il y a quand même cette notion, mais c'est quelque chose, un questionnement qui est partagé avec beaucoup d'astrophysiciens avec qui je discute, qu'il y a une espèce de volonté de connaissance de soi. C'est-à-dire que cette question de qui sommes-nous, ou qu'est-ce qu'est la Terre, ou qu'est-ce qu'est l'univers, c'est une question en soi, et que dans la structuration de la Terre, il y a cette idée de « je vais me pérenniser », en tout cas de pérenniser cette toile qui est la vie, avec un équipage qui est renouvelé sans cesse, mais quelque chose qui devient de plus en plus résistant, et tu pourrais voir l'humanité comme l'ajout d'une couche pensante, une couche de défense, une couche consciente, une couche qui pourrait prendre soin dans un organisme qui se structurerait, et l'humanité, du coup, aurait une fonction là-dedans. Et donc ça, il faut vraiment les expliciter, mais c'est quelque chose qui serait fondamental d'expliciter le projet humain. Et le projet de la biosphère, moi, en tant qu'écrivain, quand tu dézoomes et que tu vois la Terre autour du Soleil, le Soleil autour du centre galactique, la galaxie attirée par le centre, enfin le grand attracteur, nous-mêmes au sein de l'Aniakea, le super amas de galaxies, tu te dis que tout ça, c'est infime, et que la grande question, c'est de connaître ça, c'est de savoir s'il y a de la vie ailleurs, et que une des intentions de la biosphère, c'est peut-être de se dire, est-ce que j'ai des sœurs, tu vois ? Et ça, c'est quelque chose que je dis dans le roman. Et moi, en fait, la question, c'est... je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quelque chose qui est beau et c'est quelque chose qui nous élève. Donc c'est quelque chose qui est utile. Et si c'est utile et que c'est joli, je me dis, c'est pas mal. Mais charge à quelqu'un d'autre de trouver autre chose d'encore plus beau et d'encore plus utile. Et moi, je suis pas tellement dans la véracité, là. Je suis plus dans le truc. Est-ce que ce concept-là serait de nature à nous sauver et de nature à nous amener vers un monde qui est plus beau? Et moi, c'est ça qui nous intéresse. Après, quelle est l'intention de l'univers? Je pense que, enfin, On peut se poser la même question. Même la manière dont on reconstitue le passé, et ce qui est incroyable, hein, le fait qu'on ait reconstitué par la science, je veux dire, il y a, au 17e, au 18e siècle, on avait l'idée que la Terre ne remontait qu'au temps biblique. Le fait qu'elle ait 4,5 milliards d'années, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et quand Buffon avait proposé le fait qu'elle ait 2000 ans de plus, je veux dire, qu'elle ait 6000 ans, le 4000 ans, il s'est fait agresser par tout le monde. Donc, on est dans quelque chose où la connaissance du passé a beaucoup progressé. Et ça nous permet de reconstituer cette histoire. Mais c'est une histoire, hein. De la même manière que l'histoire de France, c'est une histoire. L'histoire du monde, c'est une histoire. La question, c'est de nous remettre dans un grand mythe qui pourrait être ce mythe de l'homo bioceris. C'est de nature à nous projeter. Et je pense que ce mythe-là, homo bioceris ou d'autres, hein, serait de nature à répondre à la question différemment. Qui sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Où allons-nous? Et c'est ça qui est intéressant dans le mythe. C'est que ça permet de reposer la question, cette question fondamentale-là, et de revoir le problème avec plus de douceur et pour nous reprojeter en avant. Et aujourd'hui, on n'a pas de mythe. Le seul mythe, c'est finir le trimestre avec des pourcentages en plus par rapport au truc d'avant, ce qui est complètement absurde, en fait, d'un point de vue... c'est le signe d'une folie. Et repositionner les choses comme ça, tu les reposes dans le temps, sur des durées beaucoup plus longues. Et le fait de former l'humanité, tu vois, le fait qu'on ait ce temps long qui soit inscrit, il y a des chercheurs qui appellent ça le cathedral thinking, c'est-à-dire de penser avec le temps des cathédrales. Dans le bouquin là, I Am a Good Ancestor, il développe ça. Et c'est je trouve que c'est de nature à nous faire prendre ce pas de recul dans l'espace et dans le temps qu'appelait Grothendieck pour repenser notre condition et nous repositionner vers l'avenir avec un souffle immense qui est donné par ce pas de recul.
Ouais, à la fin, tu donnes beaucoup de conférences, là, surtout en ce moment, tu rencontres pas mal de gens, donc tu vois aussi ce qui percute, ce qui percute pas, et tu as des discussions. Qu'est-ce qui te donne espoir et qu'est-ce qui parfois te fait peur en fait par rapport à notre capacité à nous mettre en mouvement et à résoudre les grands problèmes actuels?
Quand je fais ces temps de conférences, au départ, il y a des gens qui viennent un peu perdus, un peu, perturbés par cette réalité qu'on nous renvoie et qui ressortent le cœur immense avec plein d'espoir dans l'humanité, dans notre capacité à agir. Donc moi, à petite échelle, l'échelle d'écrire un roman ou de donner des conférences et de toucher quelques centaines de personnes par soir, je me sens utile, quoi. De là à se dire que ça va changer le monde, j'ai pas cette prétention, quoi. J'ai la prétention de faire un pas et de contribuer à ça, et je vois des tas de gens autour de moi qui aussi contribuent. Et ce récit, moi, j'ai essayé de le construire de manière à ce qu'il puisse être fédératif. Donc, si jamais ce roman avait un succès, en France ou ailleurs, il y a des idées dedans qui peut-être nous permettraient tous ensemble d'aller mieux. Donc il y a des intentions qui n'étaient pas juste d'écrire un roman, tu vois, c'est vraiment une proposition au monde. Et je sens des gens qui sont prêts. Et ça ne veut pas dire que ma proposition elle est bonne. Il faut qu'elle soit enrichie par les gens, il faut qu'elle soit confrontée, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle fait du bien à un moment où beaucoup de gens sont prêts à baisser les bras dans les mouvements de la transition. Ceux qui sont pas encore dans la transition, qui sont prêts à tous mourir. Je veux dire, moi, je rencontre des enfants avant qui me disent, bon, de toute façon, nous, c'est mort. Enfin, le futur nous a expliqué que c'est foutu. Je veux dire, moi, quand je vois que des générations sont prêtes à renoncer, c'est pas possible. Et ça, c'est la force des héros dans Révolution Bleue et dans La Petite Princesse, de vraiment dire chaque époque de l'humanité a eu des grands problèmes. Et on a toujours décidé de faire face. Il y a 20 000 ans, tu avais 3 enfants, tu partais faire je sais pas quoi, tu revenais, ils étaient plus là, ils avaient été mangés par un petit gros dent de sabre. C'était pas terrible, tu vois, la condition humaine, quoi. Et pourtant, tu vois, on a réussi à faire face, alors peut-être en chassant ces tigres, enfin voilà, mais on a développé des stratégies pour aller vers ça. Et aujourd'hui, moi, je peux pas croire que l'humanité peut renoncer au titre, tu vois, d'une espèce de forme de flemme ou une forme d'automatisme de se dire oula, c'est trop compliqué de changer le monde parce qu'il va falloir fermer les frontières, etc. Et moi, je crois que justement, on est dans un temps où les penseurs, ceux qui agissent, et c'est ce que je décris dans la Révolution bleue, vont développer petit à petit des concepts qui vont être de nature à nous faire sortir de cette crise qui est immense. Mais le truc fou dans cette crise, c'est que elle est provoquée par nous. elle serait provoquée par une espèce extraterrestre qui nous envahirait, ça serait compliqué. Là, en fait, l'ennemi, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, le fait que ça soit ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est à nous juste de nous changer individuellement et collectivement pour y répondre. Et ça, ça me donne espoir. Voilà. Mais voilà, moi, j'ai passé presque 4 ans à écrire ce récit parce que j'étais aussi un peu désespéré. Et de l'écrire, ça m'a redonné espoir. Et je vois que dans les conférences et les gens qui le lisent, ça leur redonne espoir. Mais c'est pas que l'espoir. Ça donne l'envie de s'engager différemment au titre de cet Homo Biosphéris. Donc, peut-être que voilà, ce roman aura un impact sur des gens lui-même, ou peut-être des gens qui créeront autre chose qui aura un impact. Donc voilà, c'est en tout cas, je suis dans ce moment où je suis content d'avoir passé ces années à essayer d'assembler ces morceaux du puzzle et d'avoir amené une petite part dans une réflexion de d'une grande transition. Et peut-être qu'on parlera dans 1000 ans de cette époque, et dans un petit alinéa on dira il y a eu ce livre là qui a joué. Voilà, moi j'ai pas la prétention de faire plus, mais je peux pas baisser les bras, et c'est mon acte de foi, en fait, ce livre.
Deux livres à lire, absolument, à part Le Petit Prince, hein, évidemment, on l'a compris, et ou deux expériences à vivre.
Alors, un premier livre à lire, moi, qui m'a beaucoup plu récemment, c'est Les Guerres de Lucas, sur la création, en fait, de Star Wars par George Lucas. En fait, c'est une histoire que je connaissais pas, et c'est fou de voir qu'il avait le monde contre lui, et qu'il a tenu en ses rêves, et qu'il allait jusqu'au bout de ses rêves. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une expérience incroyable de me dire que ce qu'on considère comme un succès aujourd'hui et quelque chose qui fait consensus n'était pas du tout un consensus au départ. Et donc, c'est vraiment un truc à faire lire à tous les jeunes et aux moins jeunes, de croire en vos rêves, de pas avoir peur d'être ridicule et d'amener au monde ce que vous sentez que vous devez amener, quoi. Donc ça, c'est génial. Et puis un autre petit livre qui va à l'encontre, et qui va un peu dans le sens de tout ce qu'on se dit. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre de 15 pages de Christian Bobin qui s'appelle Le Plâtrier Siffleur. Et c'est un livre dans lequel, donc Christian Bobin, qui était un poète, écrivain, il explique qu'en fait, la contemplation, ça serait la plus grande force de changement du monde, quoi. Et il le démontre en 15 pages, en nous amenant, en fait, à nous amener à l'émerveillement d'être vivant, et à la force de l'émerveillement. Et moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans nos pensées, tout le temps dans nos plans, tout le temps dans nos dire « tiens, si je fais ça, qu'est-ce que l'autre va faire ?» etc. Mais le point de départ, avant même de penser à Homo Biosphéris, etc., de se dire « waouh, je suis vivant ». C'est-à-dire que là, j'ai 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être moi. Je suis face à ce brin d'herbe qui est un miracle, parce qu'il y a des tas de planètes où il n'y a même pas de forme de vie, et d'arriver à s'émerveiller, d'être sur cette planète absolument fabuleuse au milieu de l'univers, et que avant même d'avoir la moindre stratégie d'action, qu'on est tous en partage le matin, d'avoir 5 minutes de gratitude extraordinaire pour se dire waouh, on en est là. Et ça, c'est fabuleux, parce qu'une fois que tu as ça, le monde, tu le considères comme quelque chose de merveilleux, et t'as envie d'en prendre soin. Et on prend pas ce temps-là. Et c'est un peu aussi des enseignements du Petit Prince. Et ce petit livre de Christian Bobin qui coûte 5 €, c'est un petit livre jaune, c'est vraiment un traité sur l'émerveillement et une invitation à prendre ce pas de recul, et même pas de ralentissement, ce temps de reconnexion totale au miracle d'exister. Voilà.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Merci.
Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cette conversation vous aura plu, peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux. Je suis Julien Devorex, je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir. Si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps, pensez à me soutenir via un don, même 1 €, ça compte, ça me permet de financer mes outils de production, par exemple. Et sinon, vous pouvez simplement parler de Sismique autour de vous ou via vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le Discord, vous abonner à Sismique sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des informations complémentaires sur les épisodes et mon opinion sur certains sujets. Ou encore, vous procurer mon livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien » aux éditions First. Tous les détails et tous les liens sont sur sismique.fr comme d'habitude. Merci pour votre curiosité, merci pour votre soutien et à bientôt.
changer le monde. Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?